Page de couverture. Saint-Cyr Mag numéro 11, juin 2025. Grand angle, page 14 à 17, un nouveau cœur de ville. Page 2, au sommaire de ce nouveau numéro, cadre de vie. Page 4 et 5, boulevard de Gaulle, le nouveau giratoire vu du ciel. Page 6, la rénovation du groupe scolaire Périgord illustré. Page 8 et 9, actualité métropolitaine. Page 10, des ombrières sur le parking de l'Escale. Page 11, des restructurations de la rue Anatole France. Page 12 et 13, les travaux de proximité. Grand angle, page 14 à 17, un nouveau cœur de ville. Proximité, page 18 à 21, décryptage, le budget 2025. Page 22 à 23, le centre de vie sociale, un lieu de ressources. Page 24, la Béchellerie parmi les meilleurs collèges de France. Page 25, Minusculette s'invite dans les écoles syriennes. Page 26, faire découvrir Tchekhov sous un autre jour. Page 27, le cinéma sous-titré à l'Escale. Page 28, votez pour votre roman préféré. Page 29, une semaine décloisonnée à l'école de musique. Page 30, Koussanard, soutenir l'éducation. Focus, page 31, le Dame du Mûrier, nouvel institut médico-éducatif. Page 32, les frelons asiatiques, un fléau à combattre. Page 33, le premier institut de dinervologie en France. Page 34 et 35, agir pour préserver la nature avec la LPO. Page 36, nouveaux acteurs économiques. Regardez-lu, page 37. En images, page 38 et 39. Magazine édité par la ville de Saint-Cyr-sur-Loire. Commune de Tours Métropole Val-de-Loire. Numéro ISSN 2495-8700. Directeur de la publication Philippe Briand. Rédacteur en chef Benjamin Girard. Rédacteur Mélanie Merlot et Alexia Neveu. Crédit photo, service communication, FreePic, Pixabay, sauf mention spéciale. Portrait du conseil municipal, David Darrault. Conception et mise en page, Audaciosa. Impression, Imprimerie Vincent. Tirage, 12 000 exemplaires. Contact, communication@saint-cyr-sur-loire.com. Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement. Page 3, édito. Philippe Briand, maire de Saint-Cyr-sur-Loire. Vice-président de Tours Métropole Val-de-Loire. Entre guillemets, un bâtiment élégant avec de belles prestations permettant de donner un véritable cachet à ce centre-ville qui nous manque. Question. Où en est le projet de cœur de ville? Réponse. En 2024, le programme technique, l'enveloppe financière et le lancement d'un concours sur Esquisse Plus ont été déterminés en vue de désigner le maître d'œuvre chargé du projet de construction du bâtiment A, situé rue de la République. Ce dernier accueillera des commerces de proximité et activités de service, notamment des activités professionnelles médicales, ainsi qu'un pôle petite enfance. Le coût prévisionnel de l'opération est estimé à 7 500 000 euros hors taxes. Trois cabinets ont été admis à présenter une esquisse indemnisée à hauteur de 20 000 euros hors taxes. Réuni en janvier 2025, le jury de concours a procédé à l'examen des projets présentés de manière anonyme par les participants au concours. Et a décidé de retenir le groupement parallèle architecture, entre parenthèses mandataire, Simono, entre parenthèses économiste, ESBAT, entre parenthèses BET structure, AB ingénierie, entre parenthèses BET fluide, thermique, électricité, SSI. En effet, le bâtiment proposé correspond en tout point au parti pris architectural de la ville. Un bâtiment élégant avec de belles prestations, permettant de donner un véritable cachet à ce centre-ville qui nous manque. Lieu de cohésion au sein duquel les Saint-Cyriens pourront se rencontrer et vivre sereinement en sécurité. Question. Comment vont les finances de la ville? Réponse. La ville a reçu le 22 mai le document de valorisation financière et fiscale 2024, établi par la Direction des finances publiques. Il démontre la très bonne gestion financière de nos deniers et le cercle vertueux dans lequel nous avons inscrit notre très belle ville, qui dispose d'un niveau d'équipement bien entretenu pour vivre bien, ici, en société. Preuve qu'en ayant une gestion rigoureuse et responsable et en s'inscrivant dans la durée, on peut faire beau, propre et qualitatif. L'épargne brute, qui permet d'identifier la part de ressources restant disponibles pour investir, après paiement des charges récurrentes, augmente de 1,7% en 2024. Avec un montant de 4,8 millions d'euros, la CAF brute atteint son plus haut niveau en 5 ans. La commune dégage un taux d'épargne très satisfaisant, entre parenthèses 22,8%, et le niveau de rigidité des charges, c'est-à-dire le poids des charges difficilement compressibles, entre parenthèses charges de personnel, intérêts de la dette et contingents, est fixé à 51,66% et reste sous le seuil d'alerte de 55%. Avec 276 euros par habitant en 2024 pour Saint-Cyr-sur-Loire, la CAF brute se situe au-dessus de la moyenne nationale de la strate, qui est à 206 euros. La commune poursuit son désendettement. Avec un montant de 8,8 millions d'euros, les dépenses d'équipement augmentent de 9,3% en 2024. Avec 507 euros par habitant, notre commune se place au-dessus de la moyenne nationale, qui est de 423 euros par habitant. Cela est manifeste d'une bonne gestion des deniers publics sans augmentation des impôts, tout en augmentant les dépenses d'équipement. La situation financière de la ville en fin de ce mandat n'a jamais été aussi saine, signe d'une gestion responsable et maîtrisée. Question. La ville vient de signer un nouveau marché pour le mobilier urbain. Pouvez-vous nous en dire plus ? Réponse. En décembre 2023, une concession de services pour la mise à disposition, l'installation, l'exploitation, la maintenance et l'entretien du mobilier urbain a été lancée entre le syndicat des mobilités de Touraine et les communes de Tours, Jouy-les-Tours, La Riche et Saint-Cyr-sur-Loire. Après une mise en concurrence, la société JC Deco a été retenue à l'occasion du conseil municipal du 2 juin 2025 pour mettre en place à Saint-Cyr-sur-Loire 71 panneaux de 2 mètres carrés, 3 panneaux numériques, 3 colonnes Maurice reconditionnées. Ces éléments seront installés d'ici la fin de l'année et permettront de diversifier l'affichage afin de toujours mieux vous informer des manifestations et activités au sein de notre ville dynamique et pleine de ressources. Nous remercions la société Giraudy qui jusqu'alors détenait le marché et qui a effectué un très bon travail jusqu'alors. Pages 4 et 5, cadre de vie. Urbanisme. Boulevard Charles de Gaulle, le nouveau giratoire vu du ciel. Cette entrée de ville très urbaine a été entièrement repensée. Un giratoire à 5 branches, comprenant un îlot central végétalisé, a été aménagé au niveau du carrefour avec les rues Henri Bergson, du docteur Émile Roux et l'allée du commandant Jean Tulane. L'aménagement a également permis de requalifier le stationnement pour l'adapter aux usages des commerces et de sécuriser les déplacements doux. Pages 6 et 7, cadre de vie. Travaux. La rénovation du groupe scolaire Périgourd illustré. Le groupe scolaire Périgourd fait l'objet d'une rénovation complète depuis 2023. Zoom sur les enjeux et les échéances de ce projet de rénovation. Parole d'élu. Christian Vrin, maire adjoint en charge de l'environnement, de l'embellissement et des moyens techniques. Entre guillemets, à terme, les 937 élèves des écoles publiques s'épanouiront dans les 3 groupes scolaires entièrement rénovés. Les enseignants et le personnel encadrant pourront travailler dans d'excellentes conditions. Les économies d'énergie contribueront à la qualité de l'environnement. Au cours de l'été 2023, le groupe scolaire Périgourd a vu la réfection complète de son école maternelle. Un an plus tard, ce fut au tour de l'école élémentaire. Elle a bénéficié des mêmes travaux, sol, plafond, éclairage, mobilier dans les classes, couloirs, sanitaires, salle de motricité et salle des enseignants. 2025 voit la poursuite des travaux dans la bibliothèque. Une première tranche de végétalisation de la cour de récréation a été réalisée pendant les vacances de la Toussaint 2024, ainsi que la réfection de la chaussée et du plateau piétonnier à l'entrée de l'école. Ces travaux vont se poursuivre par l'isolation extérieure de l'école élémentaire, puis de la maternelle, ainsi que la désimperméabilisation et la végétation des cours de récréation qui bénéficieront d'un système d'ombrage. Zoom sur la production de chaleur. Dans le cadre de son plan d'action lié au décret tertiaire, Saint-Cyr-sur-Loire souhaite agir pour la transformation de ses chaufferies gaz vers un modèle plus décarboné. Le groupe scolaire Périgourd fait partie de ce plan, son mode de chauffage actuel étant 100% gaz. Une étude d'opportunité a déjà été réalisée. Maintenant, il est nécessaire d'étudier la faisabilité du couplage d'une production géothermique avec une récupération de chaleur par les voiries. Les études de faisabilité seront réalisées en 2025, puis dans un second temps, la maîtrise d'œuvre-travaux, si le projet est viable. Ce projet s'intègre à une rénovation énergétique plus globale. Voirie positive et géothermie pour le chauffage, mise en place d'une ventilation double flux pour le traitement d'air de la partie réfectoire, mise en œuvre d'une isolation thermique par l'extérieur, entre parenthèses ITE, sur tous les murs du groupe scolaire, entre parenthèses comble déjà traité. Trois chiffres clés. 630 000 euros investis pour les travaux, entre parenthèses avant subvention possible à hauteur de 80% maximum. 10 ans. Le temps de retour sur investissement, TRI, moyen. Moins 90% d'émissions de CO2 sur 30 ans, entre parenthèses, en prenant en compte une analyse du cycle de vie, ACV, par rapport à l'état existant. Pages 8 et 9, cadre de vie. Métropole. Halte ferroviaire, les travaux vont démarrer. Les travaux de réouverture de la halte de Fondettes-Saint-Cyr-sur-Loire débuteront cet été, marquant le lancement d'un projet clé pour le territoire en termes de mobilité. Sous maîtrise d'ouvrage SNCF Gare et Connexion et Tours Métropole Val-de-Loire et financé par l'État, la région Centre-Val-de-Loire et Tours Métropole Val-de-Loire, ce projet ambitieux s'inscrit dans une démarche de modernisation et d'amélioration des transports publics de la région. Les objectifs sont multiples. Désengorger le trafic routier en offrant une alternative rapide et efficace aux automobilistes. Favoriser l'intermodalité avec des correspondances fluides entre différents modes de transport. Améliorer la qualité de vie des habitants en réduisant les temps de trajet et les émissions de CO2. En outre, ce projet lutte contre la fracture sociale en rendant les transports accessibles à une tarification attractive. Un programme de travaux ambitieux. Dans le cadre de ce vaste programme, Tours Métropole Val-de-Loire est en charge de la création d'une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite, de l'aménagement d'un parvis et de deux parkings incluant la végétalisation, ainsi que l'installation de deux abris vélos sécurisés. De plus, la démolition des bâtiments annexes à l'ancien bâtiment voyageurs est prévue pour libérer des espaces et optimiser l'environnement de la halte. Du côté de SNCF Gare et Connexion, les travaux comprennent la mise en conformité des quais par leur rehaussement et la reprise des bordures avec la pose de dalles d'éveil à la vigilance. Des abris voyageurs et des mobiliers seront également mis en place et trois escaliers créés pour accéder aux quais. L'éclairage sera mis aux normes et une nouvelle signalétique sera déployée. Tous ces aménagements permettront d'accueillir les futurs usagers dans un environnement moderne, sécurisé et accessible pour tous. Planning des travaux. Juillet, début des travaux par Tours Métropole Val-de-Loire. Août, début des travaux par SNCF Gare et Connexion. Décembre 2025, réouverture de la halte ferroviaire. Page 9. Collecte solidaire de téléphones. Pour la troisième année consécutive, la ville s'associe à la grande collecte solidaire de téléphones en partenariat avec Écosystème et Tours Métropole Val-de-Loire. L'année dernière, la métropole de Tours a fini première collectivité de France, entre parenthèses comme en 2023 et 2022, avec 1358 téléphones collectés dans les structures partenaires. Savez-vous que plus de 46 millions de téléphones inutilisés sont stockés chez les Français? Alors n'attendez plus, venez déposer vos téléphones à l'accueil de la mairie. Qu'ils soient anciens ou récents, cassés, fonctionnels ou non, tous les téléphones sont acceptés. Ils seront vidés de toutes vos données personnelles, puis reconditionnés ou à défaut recyclés. Vos dons permettront d'offrir jusqu'à 1000 téléphones reconditionnés à une association nationale qui les distribuera ensuite à des personnes dans le besoin. Vos démarches d'urbanisme en ligne. Vous avez un projet de travaux ? Saint-Cyr-sur-Loire met en place la dématérialisation de vos démarches d'urbanisme. Certificat d'urbanisme, déclaration préalable de travaux, permis de construire, de démolir, d'aménager. Ces demandes doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée par la commune avant d'entreprendre les travaux. Pour réaliser vos démarches plus facilement, la ville met en place un service en ligne gratuit et sécurisé. Un outil qui vous permettra également de suivre l'avancée de votre demande. Nouveau service en ligne. Dans un souci de simplification de ces démarches, Tours Métropole Val-de-Loire a mis en place deux nouveaux services en ligne. Collecte d'encombrants. La métropole vous propose de venir collecter gratuitement les encombrants, entre parenthèses mobilier, gros électroménagers, objets encombrants, devant chez vous. Il est nécessaire de prendre rendez-vous, La collecte se fait ensuite dans un délai d'une quinzaine de jours. Pour tous les autres types de déchets, entre parenthèses ferraille, bois, gravats, lampes, néons, etc., il est nécessaire de les déposer en déchetterie. Demande de composteur individuel. Les utilisateurs peuvent désormais faire une demande en ligne de composteur individuel de jardin. Sont éligibles les habitants en maison avec jardin de plus de 20 mètres carrés. Accessible à tout moment sur le site internet de la métropole, les formulaires en ligne permettent d'obtenir un rendez-vous en toute simplicité. Pour effectuer ces démarches, rendez-vous sur www.tour-metropole.fr/mes-démarches-en-ligne. Pages 10 et 11, cadre de vie. Énergie. Des ombrières sur le parking de l'escale. Début mai, un chantier a débuté sur le parking de l'escale pour l'installation de 4 ombrières photovoltaïques. Les travaux menés par l'entreprise Eiffage devraient s'achever courant juillet. 4 ombrières équipées au total de 665 panneaux photovoltaïques vont prendre place sur le parking de la salle de spectacle pour une puissance de production de 297 kW-crête. La production annuelle est estimée à 305 MWh par an, autoconsommée à hauteur de 70% par la commune. Ce dispositif permet de disposer d'une électricité locale 100% renouvelable et 100% décarbonée, mais aussi de diminuer les factures d'électricité. En effet, près de 11% de l'électricité consommée par les bâtiments municipaux proviendra de cette source d'énergie dès la fin 2025. Près de 500 000 euros ont été investis pour l'installation des ombrières, dont la durée de vie est estimée à 25 ans. Cet investissement devrait être rentabilisé en moins de 8 ans. Une convention signée avec Enedis. Par ce projet, la ville souhaite s'inscrire dans une démarche innovante d'autoconsommation collective, ACC, patrimoniale, en partenariat avec Enedis. Une convention est actuellement en cours de rédaction afin de permettre à terme à tout bâtiment de la ville situé dans un périmètre de 2 km d'être alimenté par l'électricité de ses ombrières photovoltaïques en utilisant le réseau électrique existant. Page 11. Travaux. Restructuration de la rue Anatole-France. Pour offrir un cheminement plus sûr et confortable aux piétons, la rue Anatole-France fait l'objet d'importants travaux de réaménagement entre la rue Tonnelet et l'avenue de la République. Ce projet d'ampleur, qui a débuté en février, se poursuivra jusqu'à la fin de l'année. La rue Anatole-France, étroite et dans une configuration ancienne, ne permettait pas d'assurer des déplacements sécurisés pour les piétons. Face à ce constat, la municipalité a décidé d'engager des travaux de restructuration de la voie, permettant la création d'un cheminement piéton continu et conforme aux normes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. La conception du projet a fait l'objet d'une concertation avec les riverains afin de mieux répondre aux besoins, notamment en termes de stationnement. La sécurité des piétons au cœur du projet. Le projet prévoit l'aménagement d'un trottoir de 1,40 m de large sur un côté de la rue, offrant ainsi un espace dédié et sécurisé pour les piétons et d'une voie de 2,80 m de large. Pour faciliter la circulation des piétons, la hauteur entre la voirie et le trottoir sera réduite, évitant ainsi les effets de vagues devant les entrées de propriété. Le reste de l'espace sera dédié au stationnement et à quelques bordures végétalisées. Un plateau surélevé sera aménagé dans le carrefour avec la rue Edmond Rostand pour réduire la vitesse des automobilistes et assurer la sécurité de tous les usagers. Des aménagements qualitatifs et durables. Une attention particulière a été portée sur le choix des matériaux, avec des enrobés clairs pour les trottoirs et les stationnements, permettant de lutter contre les effets d'îlots de chaleur. Un enrobé noir pour la voirie et des bordures en matériaux naturels, entre parenthèses granit, pour assurer une continuité avec les aménagements déjà réalisés près de la mairie. La création de places de stationnement perméables facilitera l'infiltration des eaux de pluie. Des travaux en plusieurs phases. Les travaux ont débuté fin février par une mise en séparative des réseaux d'eau usée et d'eau pluviale et le renouvellement du réseau d'eau potable. Cette première phase se poursuivra jusqu'à fin juin. La seconde phase, en collaboration avec le syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire, sera consacrée à l'enfouissement des réseaux aériens et à l'installation d'un nouvel éclairage moins énergivore. Elle se déroulera de mai à septembre. Enfin, le chantier se terminera par les travaux de voirie de septembre à décembre. Pour chacune de ces phases, les travaux sont menés en deux temps, nécessitant à chaque fois une fermeture partielle de la rue de part et d'autre de la rue Edmond Rostand. Coût du projet, 1 065 000 euros. Pages 12 et 13, Cadre de vie. Les travaux de proximité. Agents de la ville et métropolitains œuvrent au quotidien pour vous offrir le meilleur cadre de vie possible. Tour d'horizon des chantiers réalisés en cours et à venir. Carte des chantiers de la ville. Travaux sur les infrastructures 1, rue de la Benoiserie. Réfection de la chaussée, entre mai et juin. Travaux sur les infrastructures 2, rue de Périgourd. Réfection de la chaussée, entre parenthèses enrobée traditionnelle, en avril. Travaux sur les infrastructures 3, allée des Perrées et rue de la Grosse Borne, réfection des trottoirs, entre avril et octobre-novembre. Travaux sur les infrastructures 4, rue Pierre de Coubertin et de la Ménardière, réfection de la chaussée, entre mai et juin. Travaux sur les infrastructures 5, parking de l'Escale et du complexe Guide-Rue, pose d'un portique d'entrée, en avril. Travaux sur les infrastructures 6, rue Alexandre Dumas et de la Buchetterie, réfection des trottoirs, entre juillet, août et septembre. Travaux sur les infrastructures 7, rue de la Gaudinière, réfection des trottoirs, entre mai et juin. Travaux sur les espaces verts 8, boulodrome, réfection des terrains, en juin. Travaux sur les infrastructures 9, rue de la Basse Ravauderie, réfection de la chaussée, entre parenthèses enrobée traditionnelle, en mai. Travaux sur les infrastructures 10, place André Malraux, réaménagement du parking avec stationnement perméable et création d'une rampe PMR, en novembre. Travaux sur les infrastructures 11, allée du Pressoir Viau, réfection des trottoirs, en septembre. Travaux sur les infrastructures 12, rue du Bocage, réfection de la chaussée, entre juillet et août. Travaux sur les infrastructures 13, carrefour rue Albert Calmette et avenue des Cèdres, réfection de la chaussée, en mai. Travaux sur les espaces verts 14, parc de la Tour, restauration du mur de l'enceinte et réfection de la mare, entre avril et le deuxième semestre 2025. Travaux sur les infrastructures 15, rue Aristide Briand et Bretonneau, aménagement du carrefour avec plateau surélevé, entre mai et juin. Travaux sur les espaces verts 16, parc de la Pérodière, réfection des clôtures de la mini-ferme dans le deuxième trimestre 2025. Un QR code est disponible pour s'informer sur les travaux en cours. Pages 14 et 15, grand angle. Urbanisme. Saint-Cyr-sur-Loire aménage son cœur de ville. Le projet d'aménagement le long de l'avenue de la République entre les rues Jacques-Louis Blot et Jean Moulin se précise. Dès 2026, la construction d'un premier bâtiment va débuter. L'aménagement de la ZAC République Jean Moulin, en plein cœur de la commune, se veut créateur d'une centralité urbaine en mêlant harmonieusement habitat et commerce. Il répond aux enjeux de mixité fonctionnelle en proposant une offre d'équipements et d'espaces publics attractifs, favorisant une redynamisation du tissu commercial et des services, mais également de mixité sociale par une diversification de l'habitat avec des programmes neufs et la création de logements sociaux. L'ensemble des constructions seront intégrées dans un environnement paysager fort, mettant en valeur les espaces verts et limitant les îlots de chaleur. L'ensemble permettra une réorganisation équilibrée des espaces, places publiques, commerces, habitats, stationnements et cheminements doux. Ce nouveau quartier va s'organiser sur un axe fort, l'avenue de la République. La rue Victor Hugo sera dévoyée pour déboucher sur la rue Jean Moulin. L'espace entre la rue Jean Moulin et la rue Jacques-Louis Blot a été pensé autour des déplacements doux, des déambulations piétonnes et de places accueillantes et végétalisées. L'esquisse du premier bâtiment dévoilée. Le chantier devrait débuter au premier semestre 2026 avec la construction d'un premier bâtiment imaginé par le cabinet Parallèle Architecture. Véritable poumon de ce nouveau quartier, il accueillera des commerces au rez-de-chaussée, directement accessibles depuis l'avenue de la République. Un pôle tertiaire santé au premier et deuxième étage et une crèche municipale au niveau de l'attique. Ce bâtiment répond à la volonté de l'équipe municipale en termes de performance environnementale, les énergies fossiles sont donc évitées. Le coût de construction de ce bâtiment est estimé à 6 500 000 euros hors taxes. Le permis de construire a été déposé fin mars. La consultation des entreprises est prévue pour la mi-septembre afin d'envisager le début des travaux au premier semestre 2026. Les professionnels intéressés par la location ou l'achat de locaux sont invités à contacter la mairie au 02 47 42 80 02. Pages 16 et 17, grand angle. Dans les coulisses du projet. La construction du premier bâtiment du nouveau cœur de ville débutera en 2026. Rencontre avec l'équipe d'architecture en charge du projet, l'agence Parallèle Architecture. Question : en quoi avez-vous trouvé ce projet inspirant ? Réponse : le projet de cœur de ville de Saint-Cyr-sur-Loire nous a immédiatement inspirés par son ambition de conjuguer modernité, qualité de vie et respect du patrimoine urbain. Il s'inscrit dans une démarche sensible et intelligente d'aménagement du territoire, où le végétal, l'histoire et les usages quotidiens des habitants sont pleinement considérés. Cette volonté de renforcer les services de proximité en structurant un espace urbain harmonieux et durable correspond à nos convictions architecturales. L'introduction d'un atrium central dans notre proposition s'inscrit dans cette logique. Il permet de fédérer les différents usages autour d'un espace lumineux, fluide, accueillant et traversant. Question : quels défis avez-vous rencontrés ? Réponse : le principal défi résidait dans l'équilibre à trouver entre les usages très différents prévus dans le bâtiment, tout en assurant une cohérence architecturale forte. Tout l'enjeu était d'assurer une lisibilité claire dès le rez-de-chaussée, dédiée au commerce, avec une façade active, ouverte, attractive, intégrant une signalétique maîtrisée. Les étages supérieurs accueilleront des services compatibles et ou complémentaires, entre parenthèses santé petite enfance, organisés de façon à garantir confort, accessibilité et indépendance d'usage. L'atrium nous a aidés à relever ce défi. Il constitue une colonne vertébrale qui relie les fonctions, facilite les repères et apporte de la lumière au cœur du bâtiment. Il a aussi fallu composer avec les contraintes techniques propres à une construction neuve en cœur de ville. Accessibilité, flux piétonnier, stationnement, performance énergétique, sécurité incendie. C'est un projet complexe mais stimulant. Question : quels éléments ont guidé votre conception ? Réponse : Saint-Cyr-sur-Loire possède une identité forte, marquée par ses coteaux, sa trame végétale historique et son architecture discrète et élégante. Nous avons souhaité inscrire notre bâtiment dans cette continuité. Un volume simple, des façades lisibles, des matériaux durables comme la pierre et l'aluminium, qui font écho aux propriétés anciennes de la ville. L'atrium central joue un rôle structurant. Il éclaire naturellement les circulations, centralise les flux verticaux et favorise une lecture claire de l'organisation intérieure. Il renforce la sensation d'ouverture et de convivialité. L'objectif est de créer un édifice à l'échelle du piéton qui dialogue avec son environnement sans jamais le dominer. Question : quels matériaux avez-vous choisis ? Réponse : nous avons privilégié des matériaux durables, sobres et identifiables. Pierre naturelle massive et semi-massive, une couverture en zinc. La pérennité des façades est un élément déterminant à nos yeux, car elle garantit l'image de l'architecture et de la ville sur le long terme. Ce choix s'inscrit aussi dans une démarche écologique. Moins d'entretien, plus de longévité, donc moins d'impact environnemental. L'espace central largement vitré est traité avec des matériaux filtrants et performants afin d'assurer un confort thermique optimal tout au long de l'année. Question : comment ce bâtiment s'intègre-t-il dans le futur ensemble du cœur de ville ? Réponse : ce bâtiment est le premier à voir le jour dans la ZAC République Jean Moulin. Il en donnera le ton. Il a donc été pensé non pas comme une entité isolée, mais comme un élément fondateur, en cohérence avec les projets à venir. Sa morphologie, ses matériaux, sa signalétique et son implantation participent à définir l'esprit du futur quartier. La fragmentation actuelle du projet permet d'intégrer le bâtiment à l'instant T. Question : combien de personnes ont travaillé sur ce projet ? Réponse : une dizaine de personnes ont été mobilisées, parmi lesquelles architectes, urbanistes, infographistes, économistes de la construction, ingénieurs et architectes d'intérieur. Il a fallu environ 3 mois pour établir notre première proposition, de l'esquisse au dépôt de l'offre, dans un dialogue constant avec les bureaux d'études associés. Question : avez-vous déjà réalisé des projets similaires ? Réponse : oui, notre agence a mené plusieurs opérations mêlant commerce, services et habitat dans des contextes urbains denses. Nous avons acquis une méthode de travail qui s'appuie à la fois sur nos savoir-faire techniques et notre capacité à écouter les attentes des collectivités et des futurs usagers. L'expérience de la mixité fonctionnelle et de la gestion fine des flux internes nous a été précieuse ici, notamment pour concevoir l'atrium comme un espace de respiration autant que de circulation. Question : y a-t-il eu des ajustements depuis votre première proposition ? Réponse : comme dans tout projet de cette envergure, les échanges avec la collectivité ont permis de faire évoluer certains points, notamment pour renforcer l'attractivité commerciale du rez-de-chaussée ou adapter certains flux. Mais l'essence du projet est restée fidèle à notre vision initiale. Un bâtiment au service du quartier, à l'architecture lisible et utile. Question : qu'est-ce qui vous a permis, selon vous, de vous démarquer ? Réponse : probablement notre capacité à imaginer l'avenir, en considérant que l'avenir n'est compréhensible qu'après la lecture des contextes urbains actuels, des marqueurs identitaires de la ville et une interprétation cohérente du programme qui respecte l'identité de Saint-Cyr-sur-Loire. Question : un dernier mot ? Réponse : c'est une belle responsabilité que nous avons à cœur d'édifier avec humilité et passion. Légende de l'illustration. Illustration issue de la planche ambiance réalisée par le cabinet Parallèle Architecture. Pages 18 et 19. Proximité. Décryptage. 2025. Un budget tourné vers l'avenir. Le 24 mars dernier, le conseil municipal a voté le budget 2025 pour la ville, qui s'élève à 39,62 millions d'euros. Un budget orienté vers la préparation de l'avenir, avec des investissements ambitieux, notamment en matière de transition énergétique. Que financent 100 euros de recettes d'impôts ? Sur le graphique, pour 100 euros, 44 euros et 20 centimes sont des dépenses de personnel. 20 euros et 40 centimes sont des dépenses de gestion des services municipaux. 16 euros et 30 centimes sont des dépenses d'équipement autofinancées. 6 euros et 80 centimes sont des subventions et des contributions obligatoires versées. Enfin, 2 euros et 10 centimes sont le remboursement de la dette, intérêt. Les impôts, et si nous en parlions ? Depuis 15 ans, le taux de fiscalité locale n'a connu aucune augmentation. Dans un contexte économique souvent marqué par des incertitudes et des pressions budgétaires, Saint-Cyr-sur-Loire se distingue par une gestion rigoureuse et responsable de ses finances publiques. Un engagement fort qui permet de préserver le pouvoir d'achat des habitants, tout en maintenant un haut niveau de service public. Cela se traduit par une politique budgétaire à la recherche constante d'économies intelligentes, à l'optimisation des dépenses et au questionnement de l'efficacité de l'action publique. Le taux de la taxe d'habitation, entre parenthèses résidence secondaire à Saint-Cyr-sur-Loire, est de 14,16%, contre un taux moyen de 17,64% pour des communes de taille similaire et 24,94% pour l'ensemble des communes du département. Pour le foncier bâti, le taux d'imposition s'élève à 39,09%, entre parenthèses, 40,06% en moyenne dans le département, et pour le foncier non bâti à 42,69%, entre parenthèses, 46,77% en moyenne dans le département. Sur un total de 24,4 millions d'euros, répartition du budget de fonctionnement, 28% pour les administrations générales, élections et cimetières, 22% pour la jeunesse et la vie scolaire, 20% pour l'urbanisme et le cadre de vie, 7% pour les bâtiments, 7% pour la culture, la communication, les animations et les jumelages, 7% pour la culture, la communication, les animations et les jumelages, 5% pour les sports, 4% pour la petite enfance, 3% pour les emprunts, les intérêts et les dépenses imprévues, 2% pour la prévention et la sécurité, 2% pour la solidarité et la vie sociale. Parole d'élu. Benjamin Girard, maire adjoint en charge des finances et de la communication. Question. Au regard du contexte actuel, comment vont les finances de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire ? Réponse. L'année 2024 a été marquée par une diminution de l'inflation. Pour autant, nous devons rester vigilants, notamment face à l'instabilité gouvernementale que nous connaissons depuis la dissolution de l'Assemblée Générale et aux incertitudes budgétaires nationales qui en découlent. Malgré cela, Saint-Cyr-sur-Loire reste fidèle à son orthodoxie budgétaire et poursuit sans relâche la maîtrise de ses dépenses de fonctionnement, ce qui nous permet de mener des investissements ambitieux mais réalistes. Les finances sont saines. Là où certaines collectivités rencontrent davantage de difficultés, avec Philippe Briand, nous gardons le cap. Question : quels sont les axes prioritaires de ce nouveau budget ? Réponse : le budget principal s'élève à 39,6 millions d'euros. 24,4 millions en crédits de fonctionnement et 15,2 millions en crédits d'investissement. De grands équilibres sont respectés, avec toujours en ligne de mire un niveau d'imposition inchangé depuis 2009 et la volonté d'un budget cohérent au service des projets. Pour n'en citer que quelques-uns, l'installation d'ombrières photovoltaïques sur le parking de l'Escale, l'aménagement de la cour de l'école Périgourd ou encore la création d'un mini-réseau de chaleur. Le budget 2025 pourrait ainsi faire office de marqueur fort, symbole des efforts engagés depuis plusieurs années dans la gestion des deniers publics. Le revers de la médaille, c'est que nous sommes désormais contributeurs au redressement des comptes publics. Une contribution de plus de 70 000 euros décidée par le gouvernement, dont les Saint-Cyriens comme nous pourraient être fiers, si elle ne représentait au final qu'une goutte d'eau bien dérisoire. Question : que dire du taux d'endettement ? Réponse : il est effectivement pertinent d'évoquer la dette. La ville poursuit sa stratégie de désendettement afin de ne pas pénaliser ses investissements futurs. La ville poursuit sa stratégie de désendettement afin de ne pas pénaliser ses investissements futurs. La capacité de désendettement prévisionnelle s'inscrit dans une configuration excellente, puisqu'elle se situe à 3 ans et 6 mois. J'insiste sur ce point, qui reflète directement notre capacité à autofinancer nos projets. Plus nous nous autofinançons, mieux nous maîtrisons notre endettement. C'est un cercle vertueux que nous nous attachons à préserver avec rigueur. Pages 20 et 21. Proximité. Zoom sur l'investissement en 2025. 6,5 millions d'euros sur le budget principal, dont 1,32 million versés à TMVL, Urbanisme et cadre de vie. 1 554 000 euros. Quelques actions. Programme d'espace vert, y compris d'aménagement d'aires de jeu. Programme d'acquisition foncière. Programme de démolition d'immeubles. Programme de mobilier urbain. Infrastructure, 50 000 euros. Quelques actions. Parking Anatole France, reconstruction du mur de soutènement. Parc de la Pérodière, éclairage des allées. Poubelle de ville, tri sélectif. La métropole soutient la ville. La ville a exceptionnellement versé en 2025 la somme de 1 321 250 euros hors taxes, soit 180 000 euros de plus que les dernières années, à la métropole pour financer la réalisation de travaux de voirie, d'assainissement, d'éclairage public et d'espaces verts qui correspondent aux compétences transférées. Pour les habitants, cela ne change rien puisque le contenu de ces travaux est arrêté par l'équipe municipale. Par ailleurs, Tour Métropole soutient la ville dans son programme annuel d'investissement à hauteur de 884 532 euros, tout fonds de financement confondu. Équipements sportifs et de loisirs, 430 000 euros. Quelques actions, complexe guide rue, ombrière photovoltaïque, gymnase en gérant, réfection étanchéité toiture terrasse. Équipement culturel, 121 000 euros. Quelques actions, bibliothèque, aménagement de l'espace informatique, école de musique, auditorium et sécurisation, parc de la Pérodière, théâtre de verdure. Bâtiments communaux, 2 178 500 euros. Quelques actions, centre technique municipal, extension et carport, école Périgourd, aménagement des cours, réhabilitation des locaux d'élémentaire, isolation thermique par l'extérieur. Moyens techniques et services, 676 599 euros. Quelques actions, archives municipales, rayonnage, matériel, mobilier, véhicule. Sécurité publique, 330 800 euros. Quelques actions, audit de cybersécurité, vidéoprotection, acquisition de 2 défibrillateurs, acquisition de 10 barrières anti-intrusion. Budget vert, de quoi s'agit-il ? Plus de 54% des dépenses d'investissement réalisées par la ville en 2024 sont classées favorables à l'environnement, selon la méthode nationale du budget vert. Développé par l'Institut de l'économie pour le climat, I4CE, cet outil permet d'évaluer l'impact environnemental des politiques publiques. Le budget vert classe les dépenses d'investissement d'une collectivité selon leur impact sur l'environnement. Lutte contre le changement climatique, protection de la biodiversité, gestion durable de l'eau, réduction de la pollution, etc. C'est également un indicateur pour mieux intégrer les enjeux environnementaux dans le pilotage des futures politiques publiques. Pour le budget 2024, 4,7% sont non cotés, 0,8% sont défavorables, 54,22% sont favorables et 40,91% sont neutres. Pages 22 et 23, proximité. Social, le centre de vie sociale, un lieu de ressources. Sur la photo, de gauche à droite, Anaïk Mas-Portal, Nathalie Beauvois, Marie-Hélène Vincent, Caroline Girard-Lemoine, Sylvie Coréas. Le centre de vie sociale a vu le jour à Saint-Cyr-sur-Loire en 1986. À proximité de la bibliothèque municipale et du multi-accueil La Pirouette, il est situé au 1 place André Malraux. Marie-Hélène Vincent, directrice du centre de vie sociale depuis 20 ans, le définit comme un lieu de ressources de proximité. La population peut venir avec une interrogation, un problème, nous sommes là pour trouver une réponse, donner une orientation. Un réseau important de partenaires. Notre vraie richesse, c'est d'être un lieu d'accueil et d'écoute, souligne Marie-Hélène Vincent. Le centre de vie sociale fonctionne grâce à une équipe de 5 personnes, mais aussi grâce à un réseau de partenaires riches, que nous essayons de maintenir et de rendre le plus opérationnel possible. C'est cette organisation qui permet de répondre aux demandes variées des administrés. Le public adressé est large, puisqu'il regroupe toute la population, des enfants aux seniors, en passant par un public parfois en situation de handicap ou précaire. Tout le monde peut un jour bénéficier des services du centre de vie sociale. Parmi les leviers utilisés pour répondre aux attentes de la population, il existe des permanences proposées par les partenaires. Parole d'élu. Valérie Jabot, maire adjointe en charge de l'action sociale et des solidarités entre les générations. Entre guillemets, depuis de nombreuses années, je m'engage à faire du centre de vie sociale un lieu de vie et de ressources pour toutes les générations de la population de Saint-Cyr. Avec Marie-Hélène Vincent et son équipe, nous avons enrichi des partenariats avec des institutions qui concrétisent ma vision de ce lieu. Mémo permanence. Relais petite enfance, lundi et jeudi. Mission locale de Touraine, mardi. Tour emploi service, mardi et jeudi. Planning familial, selon planning. Conciliateur de justice, mercredi. Médiation Centre-Loire, selon planning. Accueil de jour AGV, jeudi. Jeu de Scrabble pour les seniors, mardi. Atelier mémoire avec Mnemo Senior, vendredi. Assistants sociaux, mardi et jeudi. Page 23, à la rencontre de Myriam Lavaux, de la mission locale de Touraine. Référente du numérique depuis 2016 à la mission locale de Touraine, Myriam Lavaux reçoit chaque mardi entre 3 à 4 jeunes de 16 à 25 ans dans un bureau du centre de vie sociale de Saint-Cyr-sur-Loire. Question : en quoi consiste votre accompagnement ? Réponse : lors du premier rendez-vous, je présente la mission locale aux jeunes. Puis, c'est à son tour de me présenter son parcours et son projet. Je donne des conseils seulement dans un second temps. Je vais regarder comment l'orienter, l'accompagner pour l'aider à trouver une formation ou regarder avec lui les offres d'emploi. Parfois, on peut se voir toutes les semaines. Je laisse le jeune définir la date du prochain rendez-vous. Je l'oblige juste à prendre un rendez-vous par mois pour que je puisse l'accompagner dans la réalisation de son projet. Question : vous êtes la référente du numérique pour la mission locale de Touraine. Qu'est-ce que cela signifie ? Réponse : à la mission locale, nous avons tous un domaine de référence d'action qui est lié au plan régional de formation. Nous suivons les jeunes en formation, mais certains sont référents en gestion de projet, d'autres plutôt de secteurs comme l'industrie, l'hôtellerie, etc. Tous les 4 ans, nous nous positionnons sur des thématiques. Je me suis positionnée sur le numérique au départ de ma collègue qui gérait cette thématique. J'accompagne donc les jeunes qui souhaitent s'orienter dans ce secteur. Question : comment ça se passe quand un jeune veut se lancer dans ce secteur ? Réponse : s'il a envie d'explorer le numérique, je vais d'abord essayer de savoir où il en est. Si je vois qu'il sait de quoi il parle et que sa demande est de se former, nous allons regarder ensemble quelle formation pourrait lui convenir. Sinon, je vais lui proposer une découverte des métiers du numérique. Il existe plusieurs formations en partenariat avec des formateurs sur lesquels nous pouvons positionner les jeunes : développeurs web, web mobile, intelligence artificielle, etc. J'assiste aux informations collectives et aux entretiens de recrutement. Cela me permet de savoir ce que les jeunes ont besoin de savoir et de faire un retour aux conseillers de la mission locale. Question : avez-vous des exemples de jeunes accompagnés à Saint-Cyr-sur-Loire qui ont suivi une formation dans le numérique ? Réponse : j'en ai plusieurs, dont Quentin, 22 ans, qui était mineur la première fois qu'il est venu me voir avec un éducateur de l'aide sociale à l'enfance. Il a commencé par la préparation des métiers du numérique. Il a continué avec le premier niveau de technicien informatique, puis technicien supérieur système et réseau. Aujourd'hui, il cherche du travail. Mais il a déjà pour objectif de reprendre en 2026 une formation d'administrateur d'infrastructures sécurisées qui équivaut à un bac plus 4 ou 5. Mais avant cela, il a besoin de prendre de l'assurance, d'aller sur le terrain pour être sûr de pouvoir bien suivre sa formation. Chiffre clé de 2024 à Saint-Cyr-sur-Loire. 61 nouveaux jeunes accueillis, 113 jeunes ont été accompagnés, 52% de femmes, 18% de mineurs, 38% de ces jeunes ont le bac ou plus. Pages 24 et 25, proximité. Jeunesse, la Béchellerie parmi les meilleurs collèges de France. Le collège La Béchellerie s'est hissé à la 10e place du classement des meilleurs collèges publics français, publié par Le Figaro, mercredi 2 avril. À cette occasion, nous sommes allés à la rencontre de Monsieur Lévesque, principal de l'établissement depuis 3 ans. 30 enseignants pour 375 élèves, ce collège considéré petit par sa taille s'est fait une place parmi les grands collèges français. Il vient d'être récompensé pour la qualité de son enseignement par Le Figaro, classement basé sur les indicateurs publiés par le ministère de l'Éducation nationale. Question. Quelle a été votre réaction quand vous avez appris ce résultat? Réponse de Michel Lévesque. Pour être honnête, je ne m'y attendais pas, mais j'étais très heureux et fier de cette 10e place qui récompense le travail mené au sein de l'établissement depuis maintenant de nombreuses années. Je n'ai jamais vu un collège dans lequel le taux de réussite au brevet est une pyramide inversée. Il y a bien plus de mentions très bien que de bien, et plus de mentions bien que d'assez bien, en sachant que la Béchellerie compte 45% de mentions très bien. Question. Comment expliquez-vous cette 10e place dans le classement? Réponse. Nous avons la chance d'avoir des écoles primaires, ici, à Saint-Cyr, qui préparent très bien les enfants à l'entrée au collège. Le rôle des parents est aussi primordial dans la réussite scolaire des élèves. Ce sont eux qui suivent l'apprentissage des enfants à la maison. Ils n'hésitent pas non plus à nous interpeller quand ils sont inquiets pour eux. Ils nous font confiance. Nous avons mis en place également un plan de formation pour les enseignants sur des sujets très variés. Cette année, 4 enseignants vont être formés pendant 2 jours sur les troubles de l'attention. Pour finir, Saint-Cyr-sur-Loire est une commune dans laquelle nous avons la chance de bénéficier de beaucoup de partenariats en tant que collège, avec le service culturel par exemple. Question. Vous avez remporté 6 titres de championnats départementaux en sport cette année. Quel lien faites-vous avec les résultats scolaires? Réponse. Ces victoires sportives sont la preuve qu'en effet, il est possible d'être bon à l'école et en sport. Nous avons fait le constat que les élèves qui réussissent se donnent à fond dans tout, y compris dans le sport. Il n'y a pas de secret. Ceux qui réussissent très bien sont des élèves qui travaillent beaucoup et qui sont encouragés souvent par leurs parents. Ils pourraient avoir tendance à se dire que tout est facile, mais non, tout n'est pas facile. Et ils ont compris que pour réussir, il fallait travailler, que ce soit à l'école ou dans une discipline sportive. Page 25. Minusculette s'invite dans les écoles saint-cyriennes. L'illustratrice Christine Davenier est allée à la rencontre d'élèves des écoles maternelles Périgourd, Charles Perrault et Honoré de Balzac pour une animation autour du personnage de ses albums, Minusculette. Vendredi 25 avril, 3 classes de maternelle des écoles Périgourd, Charles Perrault et Honoré de Balzac ont eu la chance d'accueillir Christine Davenier, illustratrice jeunesse, dans le cadre d'une animation proposée par la bibliothèque municipale Georges Sand. Christine Davenier connaît par ailleurs très bien la ville de Saint-Cyr-sur-Loire, puisqu'elle y a elle aussi grandi. Une animation en 3 temps. La rencontre a débuté par un temps d'échange entre les enfants et Christine Davenier. La discussion a porté sur les albums de la série Minusculette, publiés par la maison d'édition L'École des loisirs, dont les enfants avaient déjà découvert certains albums en amont avec leurs enseignants. Christine Davenier a ensuite réalisé une peinture de Minusculette. Les élèves étaient impressionnés de voir la créatrice de Minusculette dessinée devant leurs yeux, comme en témoignent les « Oh !» et les « Waouh !» entendus à chaque coup de crayon ou pinceau. Le poster ainsi réalisé a été signé par l'illustratrice et offert à la classe en souvenir de cette belle rencontre. L'animation s'est terminée par un atelier créatif, où chaque enfant a pu faire appel à ses talents d'artiste pour dessiner pas à pas Minusculette, en suivant les conseils de Christine Davenier. L'animation s'est terminée par un atelier créatif où chaque enfant a pu faire appel à ses talents d'artiste pour dessiner pas à pas Minusculette en suivant les conseils de Christine Davenier. Lors de la mise en couleur du dessin, les enfants ont suivi les recommandations de l'illustratrice en utilisant plusieurs couleurs et en créant des dégradés. Tous se sont montrés inspirés et très créatifs. Les élèves de la classe de moyenne et grande section de Périgourd étaient fiers d'annoncer à Christine Davenier qu'ils ont récemment participé au concours organisé par l'École des loisirs. Celui-ci consistait à imaginer et réaliser une œuvre en volume mettant en scène les personnages de la série Minusculette dans une classe hors les murs inspirée de l'univers de l'un des albums. Les enfants attendent avec impatience de savoir s'ils ont séduit le jury. Si c'est le cas, ils auront le plaisir de revoir Christine Davenier avec Kimiko, co-créatrice de la série. Pages 26 et 27. Proximité. Culture. Faire découvrir Tchekhov sous un autre jour à des collégiens et lycéens. Jeudi 13 mars, dans le cadre du festival Bruissement d'ailes, la compagnie Grand Tigre a donné 2 représentations de Tchekhov à l'Escale, dont une à des collégiens et des lycéens. Cette pièce met en avant les œuvres et la vie du célèbre écrivain et dramaturge russe. Elle fait partie d'un triptyque qui comprend 2 autres pièces sur Molière et Shakespeare, toutes mises en scène par la compagnie. Une mise en scène singulière. Le point commun des trois pièces de ce triptyque est la mise en scène travaillée à partir des œuvres et de la vie des trois illustres écrivains. C'est une façon de jouer de grands auteurs sans pour autant monter les textes de leur répertoire, confie Elsa Robin, l'une des comédiennes et metteuses en scène. Ces écrivains offrent du jeu aux comédiens, ce sont des monstres sacrés. L'objectif, selon Elsa, est aussi de rappeler qu'il y a bien des êtres humains derrière ces pièces. Les jouer les rend accessibles et vivants en quelque sorte. Odile, Clémentine, Elsa et Joseph sont au plateau pour Tchekhov, mais la troupe est plus grande. Une session de questions-réponses. À l'issue de la représentation, les lycéens du lycée Saint-Ursule à Tours sont restés pour un bord-plateau avec les quatre artistes, autrement dit, un moment d'échange où ils ont pu poser leurs questions. Quel est votre parcours ? À cette question, chaque artiste présente son parcours singulier, leur rencontre. Elsa en profite pour rappeler que certains d'entre eux se connaissent depuis 20 ans. Nous sommes une troupe. Depuis le temps, les histoires sont même nées entre comédiens, des enfants ont vu le jour. Les questions continuent de fuser. Quels ont été vos sentiments à la lecture de la pièce ? Elsa répond qu'ils ont réuni toutes leurs connaissances sur Tchekhov. À la fin de la semaine, j'avais l'impression de connaître toutes les pièces. Nous nous documentons, nous lisons, nous essayons de tirer des traits. Nous l'avons créée tous ensemble, cette pièce. Gabrielle, lycéenne, 16 ans. Entre guillemets, j'ai beaucoup aimé cette représentation. C'est intéressant de découvrir l'auteur d'une autre manière que celle qu'on peut apprendre en cours. Page 27. Le cinéma sous-titré à l'Escale, un succès. Depuis le 16 janvier 2025, Saint-Cyr-sur-Loire propose des séances de cinéma sous-titrées. Elle est devenue ainsi la première ville de la métropole à le faire de façon systématique. À la rencontre d'habitués, Laurette, 79 ans, entre guillemets, je trouve ça très bien, je ne suis pas encore concernée, mais la clientèle qui vient à ces séances est susceptible de l'être. Liliane et Claude, 82 et 88 ans, entre guillemets, c'est bien, ça permet aux personnes qui ont des difficultés à entendre de pouvoir quand même profiter de ces séances. Marie-Jo, 64 ans, entre guillemets. La première fois, ça m'a un peu gênée, mais on s'habitue. Annick, 80 ans, entre guillemets. Moi, ça ne me dérange pas. Il y a de plus en plus de personnes avec des problèmes auditifs. Les premiers retours positifs. L'annonce des séances sous-titrées a été faite aux spectateurs des ciné-jeudis en novembre et décembre 2024. Elle a été favorablement accueillie, puisqu'elle a même suscité l'envie de certaines résidences autonomie saint-cyriennes de faire venir des résidents en perte d'autonomie auditive à la première séance sous-titrée qui a eu lieu jeudi 16 janvier. Ces résidents ont pu ainsi découvrir le film « Enfant phare » d'Emmanuel Courcol. Les spectateurs habitués de ces séances sont eux aussi favorables à ce dispositif, comme Laurette, Marie-Jo, Annick, Liliane et Claude l'ont témoigné jeudi 20 mars à la production du film « L'attachement » de Karine Tardieu. Parole d'élu. Bruno Lavillat, conseiller municipal délégué à l'action culturelle. Entre guillemets, dans la vision d'une action culturelle concrète, qualitative et accessible à tous, j'ai souhaité que les personnes sourdes et malentendantes puissent profiter pleinement du plaisir de regarder un film avec un maximum de confort et de sérénité. Notre ville est particulièrement fière d'être la première commune de la métropole à mettre en place ce dispositif de sous-titrage. Pages 28 et 29. Proximité. Culture. Votez pour votre roman préféré. La bibliothèque municipale Georges Sand participe à la troisième édition du prix littéraire des promesses en partenariat avec la librairie La Boîte à Livres et d'autres bibliothèques de la métropole Tourangelle. Lancé en 2022 par la librairie La Boîte à Livres, ce prix littéraire récompense un premier ou deuxième roman, assez court, n'ayant pas encore reçu de prix important et édité chez un petit éditeur. Camille Nagiscard, responsable de la bibliothèque, confie « J'avais envie de proposer un prix littéraire à nos lectrices et lecteurs les plus assidus, et le prix des promesses m'a paru pertinent, car c'est un prix organisé sur le territoire local, mettant en avant des auteurs encore peu connus. Jusqu'au 27 septembre, lisez, échangez, votez. En début d'année, les 11 bibliothèques participantes se sont réunies avec Joël Afkin de la Boîte à Livres pour échanger et sélectionner les 5 livres retenus pour le prix des promesses. Entre guillemets, nous connaissions certains ouvrages. Les autres ont été de très belles découvertes pour nous, bibliothécaires, précise Camille. La sélection est disponible dans chacune des 11 bibliothèques participantes ou à la boîte à livres. Les lecteurs sont incités à voter jusqu'au 27 septembre. La proclamation du lauréat et la remise du prix se tiendra le mercredi 15 octobre à la boîte à livres. Entre guillemets, Les lecteurs ont été ravis de cette proposition et les 5 livres que nous avons en 2 exemplaires sont constamment empruntés et réservés. Une quinzaine de lecteurs a commencé la sélection avec l'intention de lire les 5 livres, mais ce n'est bien sûr pas une obligation pour participer, assure Camille. À la rencontre des auteurs en lice. En parallèle, des rencontres avec les auteurs sélectionnés ont été ou seront organisées dans les structures partenaires d'ici fin septembre. À Saint-Cyr-sur-Loire, la bibliothèque municipale accueillera Bénédicte Dupré-Latour, autrice de Terre promise. Prenez date. La rencontre aura lieu le lundi 15 septembre à 14h. Les romans à élire. Cette vieille chanson qui brûle de Alexandre Leneau. Le poète aux mains noires de Ingrid Glowacki. Les caractériels de Martial Cavatz. Terre promise de Bénédicte Dupré-Latour. Les eaux noires d'Agnès Jésus-Pré. Plus d'infos sur la bibliothèque municipale au 02 47 49 59 10 ou par mail bibliogsand@saint-cyr-sur-loire.com. Prix littéraire Les Promesses, 3e édition. Du 5 avril au 27 septembre 2025, lisez, échangez, votez à la librairie La Boîte à Livres ou dans l'une des 11 bibliothèques participantes. Page 29. Semaine décloisonnée, une première. Du lundi 17 mars au vendredi 21 mars, l'école municipale de musique a proposé à l'ensemble de ses élèves de changer de professeur le temps d'un cours. Ils ont ainsi pu découvrir l'approche d'un professeur qui enseigne un autre instrument de musique que le leur. À cette occasion, nous sommes allés à la rencontre d'Emilien, jeune trompettiste de 17 ans, qui a eu un cours avec Yoshiko Fujimoto, professeur de hautbois. Une expérience à double intérêt. Pour Emilien qui prend des cours de trompette depuis 7 ans à l'école municipale de musique de Saint-Cyr-sur-Loire, le bénéfice de ce changement de professeur pour un cours est positif. Cela m'a permis de travailler d'autres aspects que ceux que je travaille habituellement avec mon professeur. J'ai beaucoup plus travaillé sur le rythme que sur le son par exemple. Yoshiko Fujimoto, professeur de hautbois depuis 3 ans dans cette école, a elle aussi apprécié l'expérience. J'ai dû réfléchir à comment utiliser mon expérience de la pratique du hautbois pour servir l'apprentissage de la trompette. C'est intéressant. Emilien souligne qu'apprendre avec plusieurs enseignants permet d'avoir plusieurs visions qui nourrissent chacune la pratique de notre instrument. Une première réussie. Ce sont 200 élèves qui ont participé à cette première semaine décloisonnée, aussi appelée inter-évaluation. L'idée est née lors d'une réunion de professeurs à l'initiative de l'une d'entre eux durant l'été 2024. Selon Marc-Olivier Becker, directeur de l'école, l'objectif de cette semaine décloisonnée est de mettre les élèves en situation d'évaluation tout en les mettant à l'aise pour que ce soit un moment d'échange. Il rappelle que tous les 4 ans, il y a des examens en fin de cycle pour passer au cycle suivant, donc c'est une façon de s'entraîner à ce type de situations qui peuvent être stressantes. Olivier Becker, également professeur, trouve que c'est très intéressant, cela renouvelle l'intérêt pédagogique, et la barrière entre professionnels et amateurs s'estompe quand nous jouons de la musique ensemble. L'objectif est d'en faire un rendez-vous annuel. Le bilan global de l'opération sera fait dans les semaines à venir. Chaque professeur recueillera les retours auprès de ses élèves. Nous ajusterons l'opération en fonction. Cette initiative s'inscrit dans le futur projet d'établissement qui sera mis en application à la rentrée 2026. L'objectif est de proposer une alternative au conservatoire. Photo d'Olivier Marc Becker, directeur de l'école municipale de musique de Saint-Cyr-sur-Loire. Pages 30 et 31. Proximité. Solidarité. Coussanard, soutenir l'éducation. Suite à la visite d'une délégation municipale en 2023 à Coussanard, le partenariat direct de ville à ville s'est renforcé, venant renforcer l'action des associations qui reste essentielle et très appréciée. Photo des élèves devant les 2 salles de classe terminées. En janvier 2023, une délégation municipale, conduite par Philippe Briand, s'est rendue à Coussanard. Les échanges avec M. Boubacar Ba, maire de la commune sénégalaise, ont mis en avant le souhait des deux villes de renforcer le partenariat de ville à ville. Lors de cette visite, la ville de Coussanard a fait part du besoin d'augmenter les capacités d'accueil du collège-lycée, devenu trop petit. Certaines classes avaient été provisoirement délocalisées, faute de locaux disponibles. L'établissement souhaitait rassembler tout le monde en un même lieu, y compris le personnel administratif, dans des locaux adaptés. Près de 1600 élèves y sont accueillis et certaines classes sont très chargées, allant jusqu'à 95 élèves pour la 4e C. 2 salles de classe terminées. Une première subvention de 11 000 euros a été votée au budget 2023, permettant la construction d'une salle de classe pour accueillir une classe de 6e dès la rentrée d'octobre 2024. Suite au succès de ce premier projet, une seconde subvention du même montant a été votée au budget 2024. La remise des clés a eu lieu le 28 avril dernier et sera utilisée dès la rentrée 2025. Ces subventions sont accordées sur la base d'un devis négocié avec un entrepreneur local et les travaux coordonnés sur place par la ville de Koussanar et un chargé de travaux de l'éducation nationale. 2025, troisième et dernière classe. Le collège-lycée compte actuellement 23 salles de cours pour 24 classes. Une nouvelle subvention, toujours de 11 000 euros, vient d'être votée au budget 2025 pour financer la construction d'une troisième et dernière salle de classe. Chaque classe pédagogique aura ainsi son propre espace et tous les élèves seront réunis sur le même site. Les travaux devraient débuter prochainement pour s'achever d'ici la fin de l'année 2025. Monsieur Boubacar Ba, maire de Koussanar, entre guillemets, je suis satisfait du travail et je remercie les partenaires. Et je prie pour que la coopération continue. Page 31, focus. Social, le Dame du Mûrier, un nouveau dispositif médico-éducatif. Vous avez peut-être déjà aperçu ce bâtiment orange dans la zone Équatop. Il s'agit du nouvel accueil de jour du dispositif d'accompagnement médico-éducatif qui a ouvert ses portes en septembre 2024. Son nom est le Dame du Mûrier. Il dépend de l'association parentale Les Elfes. Nous sommes allés à la rencontre de l'équipe dirigeante de ce nouveau dispositif médico-social qui a été inauguré officiellement jeudi 16 mai. De gauche à droite, M. Geoffrey Payet, directeur général de l'association Les Elfes, Mme Sylvie Dumont, présidente de l'association, et M. Éric Charrier, directeur du Dame du Mûrier. Photo de Geoffrey Payet, Sylvie Dumont et Éric Charrier. Question : à qui s'adresse le Dame du Mûrier ? Réponse de Éric Charrier. Le Dame du Mûrier est un dispositif qui accueille des enfants, adolescents et jeunes adultes de 3 à 20 ans qui présentent des troubles du développement intellectuel. Nous accompagnons aujourd'hui sur le dispositif plus de 200 enfants, adolescents et jeunes adultes par an selon 3 modalités d'accompagnement. L'accueil de jour à Saint-Cyr-sur-Loire avec 115 jeunes accompagnés, l'accueil de nuit pour 35 jeunes par semaine, l'ambulatoire avec notamment le CESAD, entre parenthèses, service d'éducation spéciale et de soins à domicile, du Mûrier pour un suivi d'environ 50 jeunes. Réponse de Sylvie Dumont, nous avons fait le choix de l'inclusion avec un lieu qui permette aux jeunes de vivre, travailler, s'exprimer. Question, vous avez construit cet établissement à Saint-Cyr-sur-Loire, pourquoi avoir fait ce choix? Réponse de Geoffrey Payet, ce choix s'est fait grâce à l'opportunité d'un lieu que nous avons eu conjugué au fait que le siège social de l'association Les Elfes et le foyer Michel Beuzelin que nous gérons soient déjà à Saint-Cyr-sur-Loire. L'emplacement dans la zone Équatop permettait aussi de garantir une accessibilité routière et aux services pertinents pour nos jeunes. Et puis, un DAM est déjà implanté dans le sud du territoire, alors Saint-Cyr-sur-Loire apparaissait comme un lieu fléché pour accueillir le DAM du Mûrier. Réponse de Éric Charnier. Par le passé, nous avions deux établissements, l'un à Luynes et l'autre à Tournord. Le DAM du Mûrier est la réunification de deux, mais il va même au-delà, puisque nous avons la chance d'avoir deux bâtiments, dont l'un qui accueille un restaurant d'application. Question. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce restaurant d'application? Réponse d'Éric Charrier. Le restaurant s'appelle La Table des Elfes. Il est ouvert depuis le 6 juin, chaque vendredi sur réservation jusqu'à la fermeture estivale. Le but est de mettre en confiance les jeunes pour qu'ils soient opérationnels à la rentrée. C'est un lieu d'expérimentation. Il y aura 4 jeunes au service et 4 jeunes en cuisine. Ils seront accompagnés par des professionnels. Réponse de Geoffrey Payet. L'objectif du projet est d'aller vers l'inclusion inversée. Réservation obligatoire par téléphone au 02 47 37 97 57 entre 9h et 11h30 du mardi au vendredi. Page 32 et 33, focus. Portrait. Les frelons asiatiques, un fléau à combattre. Les frelons asiatiques représentent une menace pour les abeilles, mais aussi un danger pour les êtres humains. C'est ce que Thierry Mouchet, référent frelons asiatiques de Saint-Cyr-sur-Loire, nous rappelle aux côtés de Claude Jaume, apiculteur du parc de la Pérodière. Les deux hommes travaillent main dans la main pour lutter contre les frelons asiatiques. Thierry Mouchet est référent frelons asiatiques bénévole à Saint-Cyr-sur-Loire, aux côtés de la vétérinaire Laure Malherbe, dans le cadre d'un dispositif du groupement sanitaire de défense apicole. Leurs objectifs ? Prévenir des risques pour les abeilles, mais aussi pour la sécurité humaine. Une double menace. Les abeilles sont des proies privilégiées pour les frelons asiatiques, une source de protéines qui leur sert à nourrir leurs larves. En moins d'un mois, 2-3 ruches peuvent être tuées par des frelons asiatiques, souligne Claude Jaume. Leur mode opératoire est millimétré. Ils arrivent à grande vitesse, ils restent devant une ruche et ils ne bougent plus. Ils sont en vol stationnaire et puis d'un seul coup, ils vont sur une proie. S'il n'y a plus d'abeilles dehors, ils se posent sur la planche d'envol et parfois même, ils finissent par rentrer dans la ruche. D'ailleurs, l'apiculteur précise que depuis 4 ans, les ruches du parc de la Pérodière sont retirées à la fin de l'été, après la récolte, à cause des frelons asiatiques. Thierry Mouchet insiste aussi sur le risque que les piqûres de ces insectes représentent pour les êtres humains. Certains cas provoquent des chocs anaphylactiques et d'autres peuvent même être mortels. C'est pour cette raison qu'il conseille, dès qu'une personne se fait piquer au-dessus des épaules, d'aller à l'hôpital directement. Les pièges à frelons. En tant que référent frelon asiatique de la ville, Thierry Mouchet indique qu'il est essentiel d'inciter les particuliers à piéger dès le printemps pour capturer les reines fondatrices et diminuer le nombre de nids. Pour cela, plusieurs types de pièges existent. Un piège est toutefois plus efficace que les autres car il ne détruit pas l'entomofaune. C'est un piège homologué dans lequel il y a de l'appât à l'intérieur, composé d'un tiers de vin, un tiers de bière et un tiers de fruits rouges. Le piège dispose d'une grille d'entrée calibrée qui permet aux autres insectes de s'échapper, contrairement au premier modèle de piège. Ce type de piège coûte environ 40 à 45 euros, alors que retirer des nids coûte entre 100 et 150 euros avec des désinsectiseurs agréés en fonction de la hauteur. Page 33, Santé. Le premier institut de dinervologie en France. C'est à Saint-Cyr-sur-Loire que le docteur Benjamin Ferenbach, chirurgien orthopédiste spécialiste de la main, du poignet et du coude, a cofondé le premier institut de dinervologie en France, à 400 mètres de la clinique NCT+. Situé au 11 rue de la Fondemier, l'institut a ouvert le 3 mars 2025. 4 kinésithérapeutes et 2 ostéopathes, tous formés aux pathologies en lien avec les nerfs, sont là pour accueillir les patients. La dinervologie, une approche récente. La dinervologie est l'étude des compressions dynamiques des nerfs. En d'autres termes, c'est une approche diagnostique qui permet de comprendre quel est le rôle joué par les nerfs dans certaines douleurs. Cette approche est conceptualisée et popularisée par le docteur Elisabeth Haggert en 2013 avec la description de la triade de Haggert qui se base sur l'étude de 3 facteurs cliniques. Une douleur ressentie à la palpation de la zone, un stimulus extérieur provoquant une perte transitoire du tonus musculaire, entre parenthèses le scratch collapse test, et pour finir une faiblesse d'un ou plusieurs muscles en lien avec le site de compression étudié. L'association francophone de dinervologie. Installée à Saint-Cyr-sur-Loire depuis 2021, Benjamin Ferenbach a découvert les travaux d'Elisabeth Haggert un peu avant la Covid. Entre guillemets, le but de cette approche est parfois de sortir les gens de l'errance médicale, confie-t-il. Il crée alors l'association francophone de dinervologie avec plusieurs confrères. Leur symbole, un lézard, en référence au Lacertus fibrosus qui signifie petit lézard. C'est une extension aponévrotique du tendon du biceps qui peut comprimer le nerf médian selon les mouvements. Un potentiel à développer. Convaincu que de nombreux patients pourraient être mieux suivis si tous les professionnels de santé étaient formés à ce qu'est la dinervologie, le docteur Ferenbach anime des conférences auprès de ce public. Mais c'est en cofondant le premier institut dédié à ces pathologies en France à Saint-Cyr-sur-Loire qu'il souhaite aussi augmenter la meilleure prise en charge des patients. Entre guillemets, notre objectif est, dès 2026, de pouvoir ouvrir de nouveaux instituts proches de cliniques ailleurs en France. Un exploit sportif. Cette approche permet aussi à des patients de réaliser leurs rêves. Depuis 10 ans, M. Beaucher, marathonien chevronné, a des douleurs à la jambe droite. Il ne peut plus atteindre les minima pour participer au marathon de Boston. Après plusieurs années de déception, il obtient un dossard au tirage au sort en février 2025. Entre guillemets, « Même sur une jambe, je le ferai », dit-il au docteur Ferenbach, qui suspecte une compression dynamique de son nerf fibulaire sous le genou. Le temps presse, la course est le 21 avril. Opéré début mars, il sera pris en charge à l'Institut pour les testings préopératoires et les soins post-opératoires. Monsieur Beaucher voudrait enchaîner avec le marathon de Londres pour avoir la médaille des 6 stars qui récompense les coureurs ayant participé au marathon de Tokyo, Boston, Londres, Berlin, Chicago et New York, le rêve de sa vie. Fin avril, le verdict tombe. Il devient finisher du marathon de Boston et de Londres sans avoir ressenti de douleur durant la course. Pages 34 et 35, Focus. Vie associative. Agir pour préserver la nature avec la LPO. La LPO Centre Val-de-Loire est l'antenne régionale de la Ligue de protection des oiseaux, association qui agit en faveur de la préservation de la nature sur le territoire national. Ce bureau régional situé à la Maison des associations de Saint-Cyr-sur-Loire compte 13 salariés, parmi lesquels Marion Bénard, chargée de communication, que nous avons rencontrée. Marion Bénard a fait son service civique à la LPO-CVDL il y a 12 ans, et elle y est restée. Elle a été embauchée en CDI à l'issue de cette première expérience. Son quotidien est celui des autres salariés au profil multiple, chargés d'études, animatrices, formateurs, et de permettre à la LPO de faire fructifier les dons des 3500 adhérents à travers des actions concrètes. Entre guillemets, Il y a des animations quasiment tous les week-ends dans la région. Le prochain à Saint-Cyr-sur-Loire sera dans le Val de Choisy, samedi 4 octobre, précise Marion. Les actions sont multiples et elles sont aussi possibles grâce aux 250 bénévoles. Une offre variée. Il existe différents programmes adaptés aux différents publics visés par l'association, comme le programme « Plus de nature dans mon quartier », qui vise à rapprocher des publics éloignés de la nature à travers des ateliers de fabrication de nichoirs par exemple. Le programme « Drôle d'oiseau », quant à lui, est un programme intergénérationnel avec des écoles et des EHPAD. Au-delà des différents programmes existants, une école d'ornithologie a été lancée à l'échelle nationale par la LPO en 2024. Il s'agit d'un parcours de formation qui vise à apprendre à observer et étudier les oiseaux. Animé par un naturaliste, le parcours combine théorie et pratique. Entre guillemets, nous avons lancé la première formation de la région à Fondette l'année dernière. Il y a eu 2 sessions débutants, souligne Marion. La prochaine session aura lieu dans le Loir-et-Cher. Notre objectif est de développer plusieurs niveaux. Préserver la faune avec le refuge LPO. Le refuge LPO est un dispositif qui s'adresse à toutes les personnes qui ont envie d'accueillir la petite faune sauvage. Entre guillemets, c'est un programme sur 3 ou 5 ans, accessible à tous, particuliers, entreprises ou collectivités, que vous ayez un jardin ou un balcon. Même avec une petite surface sur un balcon, nous pouvons faire des choses en installant un nichoir ou un abreuvoir avec l'accord de la copropriété, précise Marion. Entre guillemets, pour 35 euros, vous recevez un kit de démarrage avec un nichoir à mésange et 3 livrets avec des conseils. Il est possible de renouveler son adhésion pour 15 euros par an et ainsi accéder à la newsletter de l'association et à des formations réservées au refuge LPO. Nous sommes d'ailleurs en train de développer le programme d'ambassadeur de refuge de LPO. Photo de 2 mésanges bleus. Page 35, entre guillemets, Libérons le hérisson, un programme initié par un Saint-Cyrien. Dans la continuité des refuges LPO, le programme, entre guillemets, Libérons le hérisson, cherche à préserver la petite faune commune. Paul Siffert, amoureux de la nature et membre de la LPO Centre-Val de Loire, est le référent du projet, entre guillemets, Libérons le hérisson au sein de l'association. Question, comment est né ce projet? Réponse, c'est un jeune Saint-Cyrien, Zachary, qui s'est rapproché de nous après avoir été inspiré par des initiatives portées par des associations à Lourdes et à Caen. Elle mettait en place des passages à hérissons entre jardins. Ces exemples l'ont touché. De notre côté, c'était cohérent avec notre politique. Nous l'avons donc accompagné dans son souhait d'en créer pour faciliter le passage des hérissons. Aujourd'hui, ce sont 25 passages à hérissons qui ont été installés à Saint-Cyr-sur-Loire. Question, de quoi le hérisson a-t-il besoin? Réponse, le hérisson a besoin d'endroits tranquilles où il peut se reposer, se nourrir et circuler librement. Notre façon de fermer systématiquement nos jardins va à l'encontre du besoin de se déplacer des hérissons. Les zones les plus favorables aux hérissons sont les zones pavillonnaires semi-urbaines, comme à Saint-Cyr-sur-Loire, avec beaucoup d'espaces verts. Donc le fait que la ville s'intéresse à leur protection en soutenant ce dispositif a du sens. D'autant plus quand nous savons que c'est une espèce qui est en déclin, quasiment menacée. Malheureusement, nous trouvons encore beaucoup de hérissons écrasés. Question, en quoi consiste précisément le dispositif, entre guillemets, libérons le hérisson? Réponse, il s'agit de favoriser l'habitat naturel du hérisson et son développement en construisant des passages à hérissons. Mais nous allons au-delà en créant des gîtes pour les hérissons, comme ici au parc de la Pérodière. Nous en avons construit 2. Ce sont des gîtes de luxe avec une petite chambre de 25 cm de côté. Mais pour les particuliers qui souhaiteraient le faire, il suffit de laisser un coin sauvage au fond de son jardin. Si vous souhaitez mettre en place un passage à hérissons chez vous, vous pouvez contacter la LPO Centre-Val de Loire. Hérisson lpo37@gmail.com. Pages 36 et 37, Focus. Vie économique. Bienvenue aux nouveaux acteurs économiques. Artisanat. Myriam Audinet Lazuli, créatrice de bijoux. Téléphone 06 70 02 51 23. lazuli-bijoux@yahoo.com. www.lazuli-bijoux.fr. Instagram @lazuli.bijoux. Bien-être. Cathy Moret, Quintsucoli Sophrologie. Sophrologue pour particuliers et entreprises. Téléphone 07 83 86 59 99. Cathy. moret37@gmail.com. quintsucoli-sophrologie.fr. Réflexologie, sauna japonais, drainage lymphatique, massage sportif, massage détente. Pôle médical Mireille Brochier, porte 212. 2 rue Mireille Brochier, téléphone 07 72 09 82 90 www.reflexona.fr. Restauration: Ibrahima Gueye, Popeyes. Fast Food: 243 boulevard Charles de Gaulle. Téléphone: 06 70 32 68 34. Igueye@popeyesfrance.fr. popeyesfrance.fr/restaurant/tour. Service à la personne: Laura Molny, infirmière diplômée d'État, soutien à domicile pour seniors et personnes âgées. Téléphone: 06 68 50 71 87. molny.laura@gmail.com. Média: Sophie Bourron des Anges. Magazine Autour. Presse gratuite, papier digital, conseil en communication. Téléphone: 06 58 36 44 33. sophieautour@gmail.com. www.autour.fr. Facebook: Autour. Instagram: Autour37. Pour retrouver l'annuaire des professionnels en ligne, un QR code est disponible. Page 37. Regard élu. Saint-Cyr-sur-Loire, un budget 2025 ambitieux sans hausse d'impôts. À Saint-Cyr-sur-Loire, nous faisons le choix de l'action et de la responsabilité. Lors du conseil municipal du 24 mars dernier, nous avons voté un budget 2025 à la fois ambitieux, réaliste et fidèle aux engagements que nous avons pris devant vous. Aucune augmentation des impôts et toujours plus de projets pour notre ville. Dans un contexte économique incertain, alors que l'inflation pèse sur les collectivités comme sur les familles, Saint-Cyr-sur-Loire tient son cap. Nous le disons avec force, ici, pas question de faire peser les contraintes budgétaires sur nos habitants. Nous avons choisi une gestion rigoureuse, sérieuse et tournée vers l'avenir. Cette constance nous permet aujourd'hui de préserver notre capacité d'investissement sans jamais sacrifier notre exigence de qualité. Éducation, sport, culture, sécurité, environnement, tous les secteurs bénéficient de cette dynamique. Ce budget 2025 poursuit les grands projets qui améliorent notre quotidien tout en préparant l'avenir. Modernisation des écoles, embellissement des espaces publics, soutien aux associations, développement d'équipements innovants et durables. Chaque décision est prise avec une vision claire: améliorer durablement votre cadre de vie. Nous continuons notamment à investir dans la qualité de nos infrastructures scolaires, dans la sécurisation de nos quartiers avec le déploiement de la vidéoprotection et dans notre engagement environnemental à travers des projets de replantation et de végétalisation ambitieux. Chaque euro investi est réfléchi pour construire une ville plus durable et plus belle. Saint-Cyr-sur-Loire ne cesse d'avancer, fidèle à ses valeurs et à son exigence. Notre ville sait conjuguer attractivité et maîtrise de son développement. L'augmentation de la population est maîtrisée, l'équilibre entre espaces bâtis et espaces naturels est préservé. Cet équilibre n'est pas le fruit du hasard, c'est le résultat d'une volonté politique forte, portée par une équipe soudée et déterminée. Un équilibre qui nous permet d'accueillir de nouvelles familles sans jamais dégrader le cadre de vie que nous chérissons tous. Ce budget 2025 est aussi le reflet d'une ambition collective. Celle d'une ville qui croit en son potentiel, qui refuse l'immobilisme et qui sait s'adapter aux défis du temps sans perdre son âme. Une ville qui, grâce à ses habitants, reste chaque jour plus vivante, plus solidaire, plus belle. Avec responsabilité, avec passion, nous préparons chaque jour l'avenir de Saint-Cyr-sur-Loire. Ici, nous croyons qu'il est possible de conjuguer ambition et prudence, développement et qualité de vie, innovation et respect de notre histoire. En 2025, comme hier et comme demain, nous restons fidèles à ce qui nous anime: bâtir une ville moderne, chaleureuse et respectueuse de toutes les générations. À Saint-Cyr-sur-Loire, nous avançons avec conviction et exigence. Pour vous, pour nous tous, nous continuerons à construire un avenir à la hauteur de nos ambitions. Les élus de la liste, Saint-Cyr, notre cœur, notre force. Si c'était nous, le conseil municipal de mars est traditionnellement celui du vote du budget. Entre parenthèses, investissement, fonctionnement, subvention, etc. Si nous avons donné notre quitus à l'exécution du budget 2024, nous nous sommes par contre abstenus de voter celui pour 2025. Si nous avions été aux manettes, nous nous serions attachés à ce que Saint-Cyr soit accessible au plus grand nombre, et notamment aux primo-accédants, comme aux employés municipaux éloignés de leur lieu de travail. Ainsi, nos écoles primaires cesseraient de perdre des élèves et tous auraient gagné en qualité de vie. Nous aurions visé un Saint-Cyr avec des aménagements capables de protéger nos concitoyens des bouleversements climatiques. Ainsi, nous aurions implanté des écoquartiers, développé les énergies propres et les mobilités douces. Nous aurions créé une structure publique d'accueil permettant à nos anciens de rester sur la commune. De plus, nous aurions envisagé un nouveau plan de circulation, intégrant les nouvelles constructions et les nouvelles mobilités. La prise de conscience de la nécessité de changer de comportement est bien là, et les municipalités se doivent de la faire vivre. Il s'agit de nouvelles orientations qui peuvent s'opérer dans la douceur et le consensus. Sans craindre pour notre qualité de vie ou notre sécurité, il convient d'accompagner ce mouvement inéluctable. Les élus de la liste, Saint-Cyr pluriel. La disparition de la voiture en ville. La France ne s'arrête pas à Paris et aux grandes métropoles. Force est de constater que la politique menée actuellement conduit à la disparition progressive des véhicules dans les centres-villes. Les conséquences sont multiples. Une désertification visible des consommateurs, des difficultés de survie des commerces de proximité, et par conséquent, le transfert des clients vers les centres commerciaux de périphérie. L'écologie doit être incitative. L'âge moyen augmentant, les difficultés physiques à se mouvoir, le pouvoir d'achat conduisent à ce que tout le monde ne puisse se prévaloir de se déplacer ou faire ses courses en transport en commun, en deux roues ou en vélo cargo. Il y a quelques années, une campagne publicitaire nationale parlait de « partager la route ». Je réitère cet appel pour que la voiture ne soit pas mise au pilori, mais que la voiture soit partagée. Saint-Cyr doit poursuivre sa politique d'implantation des commerces et des services de proximité. Thierry Davot, élu de la liste En Avant Saint-Cyr. Pages 38 et 39. En images. Photo. Les Saint-Cyriens sont venus nombreux défiler sous le soleil et en musique à l'occasion du carnaval des familles. Photo. Les chorales d'enfants de l'école de musique étaient réunies sur la scène de l'Escale le 16 mars pour fêter le printemps en concert. Photo, vous étiez près de 5000 le dimanche 18 mai à participer à Saveur au Jardin, à la rencontre des producteurs et artisans locaux présents. Photo, le 8 mai dernier, Philippe Briand, le conseil municipal et le comité d'entente des anciens combattants ont commémoré le 80e anniversaire de la capitulation allemande. Photo, réel succès pour la matinée ludique du mois d'avril. Les enfants se sont bien amusés, cuisine, parcours de motricité et toboggan, jeux de construction, piscine à balles, etc. Photo, l'escale a fait salle comble le samedi 22 mars à l'occasion du traditionnel repas festif de printemps des seniors. Photo, la police municipale et ses partenaires sont venus à la rencontre des habitants du quartier des Maisons Blanches lors d'un café avec un policier en mai. Prochaine édition, le 25 juin. Page de 4e de couverture du Saint-Cyr Mag numéro 11. Le 5 juillet dès 12h30, retrouvez les quartiers d'été. Théâtre de rue, cirque, danse, concert. Swamp City 6, le gentleman jongleur, Oops Dance Company, La Vache qui Rock, Fatras, Scratchophone Orchestra, Antoine Garel, au Parc de la Tour, à Saint-Cyr-sur-Loire.